Beautiful. Anne-Cécile Brun et Arnaud Jouve.
Sur notre planète Terre, que nous devrions appeler planète mer, comme le suggérait le célèbre commandant Cousteau, le milieu marin couvre les deux tiers de notre globe et abrite une importante biodiversité qui n'échappe pas à la crise écologique actuelle. La France, qui possède d'importants espaces maritimes, s'est dotée depuis 2006 d'une agence pour gérer et préserver certains territoires marins remarquables que l'on appelle les aires marines protégées.
Alors pour parler de ces aires marines protégées, avec nous en studio, le docteur en océanographie, Jérôme Payet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en charge du projet de tableau de bord des mers françaises à l'Agence des aires marines protégées. On va revenir sur ce projet un petit peu plus tard. Mais on va parler d'abord de cette agence. C'est une agence très récente. Alors comment est-ce que vous expliquez cette création tardive? Parce que voilà, la France est la deuxième puissance maritime. Pourquoi il a fallu attendre 2006 ?
Effectivement, on peut faire le constat que la France était plutôt en retard parmi les grands pays en termes d'aires marines protégées, dans beaucoup de conventions internationales, dans beaucoup de dispositifs régionaux. La France apparaissait un peu comme un parent pauvre en termes de nombre et de superficie de ces zones protégées. L'État a décidé de rattraper son retard au cours des années 2005-2006. L'agence a été créée par la loi en 2006, de même que le statut de parc naturel marin. Et le premier parc naturel marin a été créé en même temps, le parc naturel marin d'Iroise. Et donc depuis, il y a un effort conséquent qui est fait pour...
On peut se dire que l'idée finalement d'essayer de préserver des espaces marins, c'est une idée qui est arrivée un petit peu plus tard. On a commencé par protéger d'abord des territoires terrestres.
Exact, oui, on a commencé par protéger les territoires terrestres parce qu'on les voit. Et puis on a protégé des territoires marins pour des raisons souvent, j'ai envie de dire, anecdotiques à l'échelle des écosystèmes marins. C'est-à-dire qu'on a ciblé une espèce emblématique, spécifique ou un habitat. On a ciblé évidemment des récifs coralliens. On a ciblé des zones rocheuses particulièrement remarquables pour la plongée sous-marine. Mais c'est quand même une prise de conscience récente que pour protéger les écosystèmes marins, il fallait faire plus que ça et qu'il fallait protéger toutes sortes de zones, toutes sortes d'habitats, toutes sortes de biotopes, de biodiversité.
Alors justement, comment ça marche? Parce que on imagine très bien, donc, un territoire terrestre, effectivement, on imagine un petit peu comment ça fonctionne, enfin on voit un petit peu comment on va opérer, mais comment on fait face à une zone océanique? Là, ça paraît plus compliqué.
Alors, je pense qu'on fait dans une zone océanique un petit peu comme on fait dans une zone terrestre, c'est-à-dire que ce qu'on gère réellement, ce sont les activités humaines. C'est la seule chose sur laquelle on ait des moyens de gestion, des moyens d'action, c'est sur les activités humaines. Alors comment on gère une zone marine avec des activités humaines? On met ensemble les acteurs, les utilisateurs du milieu, les élus locaux, les gens qui ont un objectif par rapport à la mer, et puis on essaie de travailler ensemble sur quelles sont les mesures à prendre pour faire en sorte de à la fois pratiquer nos activités et protéger la biodiversité.
Mais comment on détermine par exemple le périmètre d'une aire marine protégée? Parce que sur la Terre, on visualise bien, on peut mettre des passages, des panneaux, etc. Mais alors, en mer, c'est plus compliqué.
C'est intéressant. On raisonne généralement, enfin à l'agence en tout cas, on a une politique assez claire là-dessus qui est de raisonner en termes d'enjeux. On essaie de cibler des zones qui sont à la fois des enjeux en termes de patrimoine naturel remarquable, c'est-à-dire des espèces emblématiques, des choses comme ça.
Qui sont dans une zone précise.
Alors, on a tendance à cartographier tout ça, à cartographier également les grands éléments des écosystèmes qui sont importants pour le fonctionnement des écosystèmes et les grands éléments des activités humaines en mer. Et là où on rencontre tout ça, on a envie de créer des parcs naturels marins parce que c'est l'instance la plus large et aujourd'hui la plus performante pour gérer ce genre de conflits d'usage et ce genre de problématiques.
Alors prenons un exemple concret. Il y a une première réalisation, c'est le parc naturel marin de la mer d'Iroise qui a été créé il y a un an et demi. Alors présentez-nous un petit peu ce parc. La mer d'Iroise,
alors,
déjà...
C'est où? La mer d'Iroise, c'est à la pointe ouest du Finistère, donc à la pointe ouest de la Bretagne. C'est une zone assez remarquable du point de vue en France, en France métropolitaine. Ouais. C'est une zone assez remarquable du point de vue de ses paysages déjà vus de l'air. puisque ça englobe la pointe du Raz, l'île de Sein, la chaussée de Sein, la presqu'île de Crozon, l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant, qui sont tout ça des endroits très très jolis et remarquables. Et c'est aussi remarquable sous l'eau parce que c'est une côte rocheuse, ce qui n'est pas si fréquent dans nos territoires, disons, de l'ensemble atlantique. C'est une côte rocheuse où l'eau est donc relativement claire et en plus elle est relativement poissonneuse, notamment parce qu'il y a des zones de très fort courant qui ont tendance à faire
quel type de poisson? Faites-nous rêver un peu. Qu'est-ce qu'on voit si on plonge? Parce que vous êtes plongeur aussi.
Oui, je suis plongeur
vous
aussi.
Vous avez plongé là-bas?
Bien sûr, je plonge en mer d'Iroise.
Qu'est-ce qu'on voit dans cette mer?
On y voit ce qui est une activité qui est particulièrement emblématique, c'est la pêche à la traîne, au bar et au lieu. Qui se pratique dans le Raz de Sein ou autour d'Ouessant. Donc on voit effectivement du bar et du lieu jaune. Bon, voilà. On y voit toutes sortes de poissons, de la vieille, différents labres, différents... Bon, c'est pas des poissons aussi sexy, aussi colorés que les poissons coralliens.
Mais... Alors il y a d'autres projets justement. Hein, parce que la première réalisation, c'est ce parc marin de la mer d'Iroise. Mais il y a 10 autres projets de parc, 8 en métropole et 2 en Outre-mer.
Oui, alors donc on a... l'intention effectivement de l'agence, c'est de créer un réseau d'aires marines protégées cohérent, et donc il faut avoir des aires marines protégées qui soient à la fois cohérents en termes de leurs objectifs et aussi qui couvrent un petit peu tout l'espace marin français. Donc il y a actuellement 3 projets qui sont en cours de maturation, je dirais plus avancés que les autres, qui sont donc l'estuaire autour de l'estuaire de la Somme en Picardie, donc en vue d'un parc marin des 3 estuaires, les Pertuis Charentais et l'estuaire de la Gironde, et puis la côte de Vermeil, du côté de Banyuls, près de la frontière espagnole en Méditerranée.
Il y a des projets dans les Dom-Tom aussi ?
Et donc il y a des projets dans les Dom-Tom, dont le plus mûr est celui de Mayotte, où on a une mission d'études de parc marin là-bas depuis déjà un an et demi, qui devrait donc aboutir assez rapidement. Et puis on commence le processus pour les Antilles et la Guyane.
Qu'est-ce qui différencie ces initiatives françaises de ce qui se fait à l'étranger ? Qu'est-ce qui existe finalement? Il y a des initiatives à l'étranger aussi de protection d'espace, etc. Il y a des pays qui sont déjà organisés leur espace marin comme ça en parc, en réserve.
De très nombreux pays, la plupart des pays ont effectivement déterminé des réserves marines. On peut pas faire l'inventaire de tout ce qui se fait. Ce qu'on peut dire, puisqu'on revient d'un voyage aux États-Unis et qu'on va en parler tout à l'heure, c'est qu'on a une très grande similitude d'approche avec les Américains, qui ont effectivement quand même 20 ans d'avance peut-être sur nous en termes de démarche, mais on peut constater qu'il y a vraiment les mêmes processus de concertation, des processus de mise en réseau des aires marines protégées pour atteindre des objectifs écosystémiques.
Alors justement, cette année, c'est le NOAA, l'Agence nationale en charge des océans et de l'atmosphère aux États-Unis, qui était l'organisateur du Congrès mondial des aires marines protégées, qui possède donc une grande expérience, vous disiez, les Américains, en termes de gestion des espaces marins. Et alors, pour vous montrer ce qu'ils réalisent, à vous, les Français, pour favoriser les échanges d'expériences, ils ont accueilli une délégation française de l'agence sur un parc qu'ils exploitent depuis 1975 à Key Largo, dans les Florida Keys.
Alors, c'était justement à l'occasion d'un congrès mondial des aires marines protégées, qui est le grand congrès, c'est le deuxième à Washington, et qu'on appelle Impact 2. Le premier s'est déroulé en Australie, il y a 4 ans, et donc le prochain sera à Marseille, ça sera donc Impact 3.
On écoute le reportage de notre journaliste Alexia Gaillard.
Oh, you're ready?
Yeah.
Well, welcome to the
Bienvenue dans le sanctuaire marin national des Florida Keys. Je suis très heureuse de vous accueillir et j'espère que le beau temps sera avec nous.
My name is Mary Taglarini and I am the education and outreach coordinator here at the Florida Keys.
Je m'appelle Marie Taglarini et je suis coordinatrice en charge de l'éducation et de la sensibilisation au milieu marin. Devant vous, vous avez des plaquettes d'information et des cartes pour mieux vous situer et savoir où nous allons nous rendre. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre si vous ne comprenez pas quelque chose ou si je parle trop vite.
So the National Marine Sanctuary program, it all started with the National Marine Sanctuary Act in 1972.
Je m'appelle Olivier Laroussini, je suis le directeur de l'Agence des aires marines protégées.
C'est vrai que dans notre approche française, on est à travailler plutôt dans des cercles socio-professionnels, des cercles de gens avertis. Et on n'a pas trop le réflexe d'aller vers le grand public et encore moins d'essayer d'avoir un retour du grand public. Voir l'expérience des Américains de ce point de vue-là est assez intéressant puisque, au contraire, ils ont tout de suite le réflexe communication grand public, manifestation de l'intérêt du grand public pour essayer d'en faire des mouvements avec, y compris des questions d'argent à la clé puisqu'on crée des fondations et ça peut contribuer à financer, très concrètement, la création ou l'investissement dans des aires protégées.
Est-ce que vous avez décidé d'une certaine collaboration avec les États-Unis sur les années à venir ?
Effectivement, il y a plusieurs idées qui ont été retenues. D'abord, nous sommes jeunes, ils ont beaucoup plus d'expérience. Il est clair que là, il y a une coopération qui est non équilibrée entre nous, c'est-à-dire que nous sommes vraiment demandeurs de leur expérience technique, de leur expérience technique de communication aussi, de la façon d'organiser les équipes, le monitoring, tout un tas de choses. Par ailleurs, nous sommes assez complémentaires, notamment dans le Pacifique, et nous avons très bien identifié que avoir une stratégie ensemble, Amérique du Nord, France, sur le Pacifique, serait certainement plus profitable que de leur côté régler leurs problèmes hawaïens ou des Samoa, et d'une autre discuter juste sur la Polynésie française ou sur la Nouvelle-Calédonie. Donc de ce point de vue-là, très rapidement, on devrait avoir un accord technique, au moins d'échange et de savoir ce qui se passe, derrière lequel on pourrait certainement entraîner des discussions à un niveau un peu plus politique des autorités locales, en fait, de ces différents pays d'outre-mer.
J'ai entendu dire, ce qui se dit en tout cas dans les couloirs, que l'arrivée de la France comme l'organisateur de Impact 3, c'était un petit peu de fraîcheur par rapport à la grande machine américaine.
Ça me fait énormément plaisir. Je pense que le défaut d'Impact 2, enfin la deuxième édition, était un petit peu trop recentré sur le monde anglo-saxon. Pour pas dire les Américains, ils n'ont pas souhaité recentrer. Il se trouve que on est plutôt dans le monde anglo-saxon. Et de ce point de vue-là, confier à la France l'organisation du troisième, c'est au moins la garantie qu'on va sortir du monde anglo-saxon. Celui-là sera fidèle parce qu'il a aussi l'habitude de ses congrès et de leurs fonctions. À charge pour nous, Français, d'ouvrir plus sur l'Europe, d'ouvrir plus sur l'Afrique, l'Asie, autant de continents dans lesquels nous avons aussi des réseaux et donc peut-être aussi une certaine capacité à faire venir et intéresser le public potentiel de ce congrès.
Go back out to the car, we'll be right down. Olivier, come on up.
Allez.
I want to introduce Don Mooney. He's going to be our captain today.
Fabienne, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté là, l'équipe de la NOAA?
Là, en fait, on va faire une petite une découverte du milieu marin dans les Florides Keys.
Petite balade dans tout ce qui nous entoure, en fait.
Voilà, dans le sanctuaire marin, dans certaines zones très précises, ils vont nous donner un petit peu plus d'indications pour savoir si c'est dans une réserve ou une autre zone plus spécifiquement protégée.
Et après, à l'eau ?
Après, à l'eau. Et vive la découverte. On va voir tous les poissons.
So we're going to go out the canal. The whole day you're going to be in the Florida Keys National Marine Sanctuary.
Alors nous allons d'abord quitter le canal et toute la journée nous allons naviguer dans le sanctuaire marin national des Florida Keys et plus particulièrement dans la zone de Key Largo. Vous serez donc dans un secteur qui est protégé depuis les années 60. Nous avons prévu de nous arrêter pour plonger dans le récif de Molasses. Et si le temps nous le permet, j'espère que nous pourrons également découvrir le récif de White Bank, qui n'est pas une zone protégée. Mais certaines communautés nous ont déjà demandé de préserver cet endroit et nous y travaillons.
Do you have you more difficulties with commercial or recreational activities? Both?
I'd say both. Problems
I'm
with
sorry,
them.
What was the question?
We have problems with recreational or commercial activities.
I would say on a day-to-day basis, it's not really.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé comme question?
Je lui ai demandé
avec quels acteurs il avait le plus de problèmes, avec les professionnels ou les plaisanciers. Il a répondu que les problèmes étaient en termes de quantité identiques pour les deux populations, mais avec des particularités selon les périodes de l'année, et surtout en été où il y avait beaucoup de problèmes avec les touristes, bien sûr. Et en même temps, les pêcheurs professionnels savent qu'ils vont les revoir le lendemain ou le surlendemain, donc ils ont tout intérêt à jouer le jeu. Voilà.
C'est important d'avoir le point de vue, justement. Vous êtes là pour les rencontrer, ces Américains, pour avoir leur expérience.
Oui, parce qu'on se rend compte qu'on a souvent les mêmes préoccupations. Ils gèrent une aire marine protégée, comme nous dans le parc naturel marin d'Iroise. Et donc, partager les expériences, les échanger, c'est toujours intéressant parce qu'on se rend compte souvent qu'on a les mêmes problèmes et ça permet de s'enrichir. Et ceux qui ont plus d'expérience et d'ancienneté que nous apportent leur réussite mais aussi leurs échecs. Et c'est l'enrichissement des deux, finalement, qui nous permet, nous, d'avancer, j'ose pas dire plus vite parce qu'on est quand même assez humble, mais en tout cas d'avancer, si possible, dans la meilleure direction tout de suite.
Donc là, vous venez de le dire, on est sur une surface qui est beaucoup plus importante que le parc marin d'Iroise.
Bah oui, apparemment, ouais, c'est vraiment le cas. Donc, la surface est vraiment grande, en fait. C'est, la gestion est plus difficile.
Ouais, c'est ça.
Le parc est plus grand, le nombre de visiteurs est plus grand, parce qu'il y a 4 millions de visiteurs qui fréquentent ce sanctuaire. Bah, à l'échelle, ça revient à peu près au même. Quand on répartit 4 millions de visiteurs sur une superficie aussi grande, je veux dire, les pressions sur les milieux sont à peu près comparables.
À la limite, ça serait peut-être plus intéressant d'avoir
ce genre d'expérience. C'est toujours couplé avec un travail de scientifique.
Et moi, j'ai vraiment envie de savoir s'ils font du lobbying pour développer l'éco-navigation ou pas. Donc, je vais leur demander parce que nous, à l'agence, on a quand même monté Econav avec des navigations et la fondation Nicolas Hulot pour prendre le problème de façon globale, c'est-à-dire construire des bateaux plus propres, veiller à ce qu'il y ait des ports aussi de déconstruction, à ce que les ports intègrent aussi des normes environnementales très fortes. Parce que ça ne suffit pas de faire des zones protégées en mer si tu fais pas la façon beaucoup plus globale. Il
faut savoir quel est le travail, si tu veux, de sensibilisation qu'ils font sur des sujets environnementaux plus globaux.
On va leur demander.
Moi, je m'appelle Christophe Lefebvre et donc je m'occupe des relations internationales à l'Agence des aires marines protégées. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est de faire en sorte qu'au niveau international, au niveau des grandes organisations, on ait un autre regard sur la protection et la gestion de la mer.
C'est un des endroits de coraux mous le plus important du monde. Bon, vous avez pris la combinaison, ça va là? Vous n'avez pas froid dans l'eau à 28 degrés?
Hein? Si, au bout d'un moment, il fait froid.
T'as pas le chapeau là? Chapeau, non, et les bottillons.
La cagoule
et les bottillons.
Ça, c'est pour décembre, le surf en décembre. Ça.
It's beautiful. Okay. Perfect.
On voit très très bien les coraux et il y a des algues extraordinaires au fond, ça donne une couleur arc-en-ciel à l'eau, c'est fantastique.
Non, c'est super, c'est incroyable.
Tu as les couleurs, toi, quand tu m'as vu en bas, là, tu as les couleurs avec les fonds blancs.
Ouais,
les gorgones, c'est super.
Ouais,
C'est super.
C'est impressionnant, hein, la biodiversité qu'on voit en un quart d'heure. C'est impressionnant. Hein. Sur un espace qui est quand même préservé, mais qui est fréquenté quand même. C'est pas un espace qui est complètement vierge, sur lequel on arrive après personne. Hein. C'est impressionnant.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Jérôme Payet, comme on vient de l'entendre dans ce reportage, là on est toujours un peu sur le bateau finalement. Les Américains ont une expérience de la gestion de ces aires marines dont vous pouvez vous inspirer?
Oui, absolument, parce que leur méthode, je crois, hein, on peut dire que leurs méthodes ont évolué au fil du temps. Ils sont partis de dispositifs réglementaires assez stricts, avec des interdictions, avec des choses qui ont plutôt braqué les utilisateurs, les usagers, et qui n'ont pas bien marché. Et ils sont passés de ce processus un petit peu autoritaire à un processus de concertation beaucoup plus développé. Et c'est vraiment l'approche qu'on ressent aujourd'hui et qu'on essaie de pratiquer en France, avec les parcs naturels marins notamment. on s'aperçoit que effectivement les dispositifs qui marchent sont ceux qui sont agréés par tout le monde.
Alors dans le reportage, Thierry Canteri, le directeur du parc naturel marin d'Iroise, se demande comment les Américains ont pu gérer les différents interlocuteurs, pêcheurs, plaisanciers, hein, parce que c'est justement un problème auquel lui il est confronté, hein, en mer d'Iroise. Il y a justement cette difficulté. Alors comment on fait pour concilier des enjeux différents sur un même espace?
D'abord, on fait en sorte que les gens se voient et se parlent. Donc là, un
parc qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas naturellement. Hein, ils se parlent par les ondes, mais ils se parlent rarement en face. Donc là, le parc naturel marin d'Iroise et tous les parcs naturels marins auront un conseil de gestion dans lequel on a les représentants à la fois des groupes socioprofessionnels et puis des associations et des groupes d'activités divers, plus les élus, etc. Parler ensemble, ça permet très rapidement d'élaborer généralement des objectifs communs. Les objectifs des pêcheurs plaisanciers et des pêcheurs professionnels, je pense qu'ils sont quand même de pêcher plus et mieux, qu'il y ait plus de poissons dans la mer et que leur activité soit plus ludique ou plus rentable. Donc finalement, ça va être facile de trouver les objectifs communs. Après,
comment... Ça se complique peut-être un peu, c'est
avec les plaisanciers. Hein.
Voilà, les enjeux touristiques ou...
Les enjeux touristiques sont pas vraiment en opposition. On peut pas dire en mer d'Iroise qu'on ait un problème majeur avec le tourisme. On a pas mal de bateaux, mais enfin c'est pas non plus la pression qu'il peut y avoir sur la Méditerranée, par exemple. On a effectivement, enfin les pêcheurs ne se plaignent pas de l'abondance de gens sur l'eau. On peut pas dire que ce soit un problème ici.
Alors au-delà de la gestion des activités humaines, il y a évidemment une biodiversité spécifique à protéger, hein, notamment en mer d'Iroise, qui est donc le premier parc français. Alors comment vous y prenez? Comment vous surveillez toute cette biodiversité?
Alors le
ça
parc,
bouge.
Oui, ça bouge. Donc le parc dispose d'agents permanents qui sont des gens qui vont sur l'eau, qui sont sur le terrain tout le temps. Et puis le parc s'appuie sur des groupes scientifiques qui d'ailleurs bien souvent préexistaient et qui menaient des études, par exemple sur le champ d'algues de Molène, qui est particulièrement emblématique, ou sur les phoques, ou sur les dauphins, les grands dauphins de la mer d'Iroise. Il existait des études, et donc le parc prête son concours, à la fois en allant effectuer des comptages, ou en allant effectuer des plongées, puis en prêtant sa logistique pour les scientifiques. Concrètement, effectivement, on a des comptages de phoques sur donc ce qu'on appelle les reposoirs, c'est-à-dire quand ils montent sur les rochers. Chaque année, on compte les phoques et on évalue l'évolution des populations. La même chose pour les grands dauphins qui sont relativement sédentaires. Et puis les champs d'algues, on essaie de faire le tracé des limites pour voir si ça évolue au fil des ans et en particulier en réponse au changement climatique.
Alors justement, aujourd'hui, une des grandes préoccupations, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que justement c'est une donnée que vous prenez en compte? Enfin, j'imagine, mais justement, comment elle intervient dans la gestion d'un parc, cette question?
C'est une question très complexe, parce que les effets du changement climatique sont parfois très notables, en particulier dans les récifs coralliens outre-mer, où on a eu des mortalités conséquentes et des dégradations terribles. Dans nos eaux, bien qu'on constate de manière indubitable un réchauffement, les effets sont beaucoup plus difficiles à déterminer. En particulier, c'est beaucoup plus difficile de discerner si l'évolution de telle ou telle population est liée au changement climatique ou est liée à des pratiques, à des activités ou même à un changement naturel. Donc l'idée, de toute façon, dans un parc naturel marin ou dans une réserve naturelle ou dans un parc national, c'est d'observer pour comprendre aussi. C'est-à-dire que bien souvent, on aura des réponses dans 15 ou 20 ans, mais si on commence pas à observer à un moment donné, on n'aura jamais la réponse. Donc le parc fait des recensements, fait une espèce de photographie du parc à intervalles réguliers pour être capable d'évaluer ces problèmes.
Alors on le disait au début de cette émission, vous êtes en charge du projet Tableau de bord sur les mers françaises. Alors ça consiste en quoi ce projet?
Alors le projet de tableau de bord, c'est un projet qui vise à aider en fait les grands décideurs dans la détermination et dans la conduite des politiques publiques sur la mer. Et pour cela, on vise à remonter à ces décideurs et du coup aussi au grand public et à l'ensemble de la communauté des informations synthétiques sur la mer qui peuvent être à la fois une cartographie de ce qui s'y passe et des grands indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs, c'est-à-dire est-ce que les choses vont mieux, moins bien, est-ce qu'on est en ligne avec nos objectifs.
Vous avez documenté par exemple le Grenelle de la mer qui rend une partie de ses conclusions demain.
Alors effectivement, on a promu cette idée au Grenelle de la mer, mais c'est une idée qui de toute façon parle rapidement à tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'il faut une évaluation des politiques publiques et il faut un suivi, à la fois un suivi en termes d'observation scientifique et un suivi en termes d'observation des politiques que l'on mène. Donc, typiquement pour le tableau de bord de la mer, on a l'ambition de regrouper sur un même portail des informations sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, sur les écosystèmes, sur les activités humaines en mer, les différentes pressions et sur le respect des obligations de la France, etc.
Et uniquement sur les zones marines protégées?
Alors non, pas du tout. Justement là, ce projet, il couvre l'ensemble des eaux sous juridiction française, outre-mer inclus. Parce qu'il faut le faire. Hein, d'abord, il existe notamment pour les eaux métropolitaines une directive européenne qui nous demande de faire un suivi complet de nos écosystèmes dans les eaux sous juridiction française. Et puis parce que lorsqu'on mène au niveau de l'Agence des aires marines protégées une politique nationale, une stratégie de création d'aires marines protégées, on est obligé d'avoir une vision globale pour savoir si les aires marines protégées contribuent ou non, et puis à la limite où est-ce qu'il faut en créer ou pas. Donc on est obligé d'avoir une vision globale sur la mer et sur l'état des écosystèmes.
Ben vous avez du pain sur la planche. Hein.
C'est des informations qui sont disponibles par tout le monde?
Alors, on est en phase de construction du projet. Beaucoup d'informations sont disponibles à droite et à gauche. Ce qui manque généralement, c'est un accès centralisé parce que le béotien, y compris le politique béotien ou le décideur béotien, a énormément de mal à trouver cette information aujourd'hui.
Merci beaucoup Jérôme Payet d'être passé dans C'est pas du vent. C'est pas du vent reste à l'écoute des pulsations du monde. Vous pouvez nous joindre par internet à l'adresse suivante c'estpasduvent@rfi.fr. N'hésitez pas à nous poser des questions.
Alors nous vous donnons donc rendez-vous demain pour une autre émission qui sera consacrée au Maroc avec l'un des grands acteurs du Maroc vert, Moundir Znieber.
À demain donc, même planète,
même heure.